Ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur la compassion comme refuge. Ce qui émerge lorsque j'ai compris la première vérité et que j'ai abandonné la deuxième vérité. J'ai compris dukkha. Le monde ne peut pas être parfait, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. Et comme j'ai bien compris, dukkha, j'ai abandonné cet espoir fou que les choses pourraient être comme je les veux. Et alors le contrôle lâche, l'équanimité émerge. Il y a moins de réactivité. Il y a ce oui à l'expérience telle qu'elle est. Alors, c'est facile à entendre intellectuellement, hein? On est tous d'accord. Mais quand les choses émergent, concrètement, il faut, voilà, nous sommes dans le chemin. Il y a cette joie ou cette gratitude, mudita, qui est importante à développer, à reconnaître. Mais l'aiguillon de la souffrance, dit le Bouddha, c'est ce qui nous fait avancer. Donc, dukkha est une vérité. Ça n'est pas un ennemi. La douleur et l'identification font que je trouve en moi les forces d'aller vers la libération. Parce que c'est juste trop désagréable. C'est juste trop dur. La vie, elle est rude. Les défis sont grands. Il y a une cruauté à l'impermanence, quand la maladie arrive, quand la vieillesse arrive. Nous avons la chance d'habiter un pays en paix, mais la cruauté des hommes dans un pays en guerre peut être terrible. Le manque de respect, le manque de bonté, c'est grand, hein? Que ce soit au niveau professionnel, au niveau social, politique, familial, à reconnaître. Et alors, c'est important de questionner la réponse que nous donnons. Et de se souvenir encore et encore que la haine ne va jamais lâcher par la haine. Et qu'il n'y a que l'amour qui peut la guérir. Et c'est vrai à l'extérieur et c'est vrai à l'intérieur. Et je vous l'ai dit beaucoup, mais j'aimerais vous le lire dans le texte. Celui qui répond à la haine par la haine est pire que celui qui a haï le premier. Ne réponds pas à la haine par la haine et gagne une bataille difficile à gagner. Celui qui reconnaît la haine d'un autre et qui, en pleine conscience, maintient la paix dans son esprit, ne sauve pas seulement sa propre vie, mais également celle de l'autre. Si tu ne gagnes pas cette bataille difficile à gagner, tu fais à toi-même le même mal que ton adversaire. Tu es comme du bois mort. Ce bois mort, c'est cette non-compréhension de ce qu'est le pardon. Et le pardon, j'y reviens courtement, au fond, nous n'avons rien à, nous n'avons pas à pardonner à l'autre. Nous n'avons que ce travail à faire à l'intérieur de nous-mêmes, de savoir demander pardon. Lorsque je n'ai pas pu sauver l'autre de son propre karma. Lorsque j'ai autorisé l'autre à me faire du mal. C'est que je n'ai pas compris. Je me laisse envahir par l'autre. Et la compassion, c'est cette force intérieure où je ne laisse pas l'autre me faire du mal. Parce que mon ancrage est suffisant pour que j'ai compris et je lui laisse sa part. Il n'y a que la demande de pardon qui, au fond, manifeste la limite de la nature humaine. Je suis limitée du fait même que je nais. Et dans ce jeu du karma, de par ma présence, je crée parfois la réactivité chez l'autre. Et je peux demander pardon pour ça, pour ce jeu de la vie auquel je participe. C'est puissant comme lâcher prise. Je vous lis. Je crois bien, je sais pas, ça vient d'Amérique du Sud, je sais plus trop d'où. Nous croyons devoir pardonner aux autres ce qu'ils nous ont fait, alors que c'est nous qui prenons prétexte de leurs actes pour les juger, pour fermer notre cœur et cesser d'aimer. Et sitôt qu'on arrête d'aimer une personne, on réduit le flot d'amour qui nous traverse le cœur, et non l'inverse. Nous leur demandons pardon à eux pour guérir notre cœur, et non l'inverse. Nous leur demandons pardon de les avoir utilisés, de nous être servis d'eux pour nous couper de l'amour, tout en leur reprochant le choix que nous avons fait nous-mêmes. Lorsque nous entrons dans ce chemin de méditation, nous sentons mieux les limites qui sont les nôtres et les moments où nous utilisons mal la parole ou l'acte. Et il y a ce que le Bouddha appelle une bonne honte ou une bonne peur. C'est celle qui nous fait passer de cette soif d'avoir des conditions parfaites à l'aspiration pour la libération. De tanha qui fait que je me ferme sur mon moi avec mes besoins, nous passons à cet élan d'universalité, de partage, de rien qui est tout. Donc à nous de savoir ouvrir le cœur à la compassion. Et ça ne veut pas dire prétendre, mais ça veut dire quelquefois pouvoir être à l'extérieur parce que c'est ouvert et je peux être dans la compassion pour l'autre. Et quand je ne peux pas, je viens dans la compassion pour moi-même. Ah là, ça sert. Je ne peux pas, je vais pas continuer. Hein. C'est bon. Mais je viens là parce que tout est à l'intérieur. Je vous lis Eti Hilesum, qui est cette merveilleuse et toute simple femme qui a choisi de rester dans les camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale plutôt que s'enfuir aux États-Unis pour être là. Et elle dit « L'absence de haine n'implique pas nécessairement l'absence d'une élémentaire indignation morale. » Je sais que ceux qui haïssent ont pour cela de bonnes raisons. Mais pourquoi devrions-nous toujours choisir la voie la plus facile, la plus rabattue? Au camp, j'ai senti de tout mon être que le moindre atome de haine ajouté à ce monde le rendait plus inhospitalier encore. La saloperie des autres est aussi en nous. Et je ne vois pas d'autre solution que de rentrer en soi-même est d'extirper de son âme toute cette pourriture. Je ne crois plus que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur, que nous n'ayons d'abord corrigé en nous-mêmes. L'unique leçon de cette guerre est de nous avoir appris à chercher en nous-mêmes et pas ailleurs. Et en nous, il y a cette vulnérabilité, cette sensibilité qui fait que nous sommes touchés. Et dans une retraite, nous voyons bien combien nous sommes touchés par des petites choses. Parce que tout d'un coup, je culpabilise parce que je vais trop vite, ou j'ai trop mangé, ou j'ai pas fait exactement ce qu'il fallait. Ou alors je juge l'autre parce qu'il prend trop à manger, ou parce que il n'a pas fait attention à moi, qu'il ne suit pas les règles de la retraite. Et alors nous sommes dans ces mouvements de non-compassion. À reconnaître. Et à reconnaître avec bonté parce que notre élan, c'est l'harmonie. Et quand je juge, c'est que quelque chose me coupe de cette harmonie qui est ma vraie nature et à laquelle j'aspire. Et juste dans l'instant, je ne peux pas la vivre au niveau des conditions. On peut définir la compassion de plusieurs manières. J'aimerais un peu explorer cette compassion. D'abord, c'est quelque chose qui est lié à la chaleur, quelque chose qui est lié à la protection, à ce que ferait une maman pour son enfant. Et c'est ça, cette chaleur de la compassion qui fait fondre notre dureté intérieure. Nous avons des montagnes de glace à l'intérieur qui sont des protections. Et nous n'osons pas laisser fondre ces protections-là. Et quand nous commençons à les voir, c'est qu'elles commencent à ne plus être trop utiles. Nous pouvons les remercier d'avoir protégé notre cœur d'enfant ou notre source. Mais tranquillement, nous pouvons ouvrir à cette exigence, à ce stress, à cet attachement à nos opinions, créer la dureté. Et quelquefois, il faut un petit peu négocier. Jusqu'où tu peux aller? Ici, là. Et plutôt que de dire ah non, moi je peux pas, eh peut-être je peux, peut-être. Du fait que nous sommes un être humain, nous avons des parties de compassion, d'ouverture, et puis d'autres parties gelées. Et la compassion peut être travaillée vraiment dans le sens de prendre ce qui fait du bien et de se l'offrir à soi-même. D'être pour soi-même le bon père ou la bonne mère ou la bonne... le bon Dieu. Il y a une inspiration à aller vers ce qui est plus tendre et plus doux, tout en sachant que ça n'est pas un rejet de cette autre part de nous-mêmes. Et il y a toujours cette similitude entre l'intérieur et l'extérieur. Ce que j'arrive à ouvrir à l'intérieur de moi, je peux l'ouvrir à l'extérieur. Et c'est souvent dans les situations les plus dures que ça devient évident. Et devenir de plus en plus humain, c'est limiter de plus en plus cet instinct de survie qui fait que tant que pour l'autre, c'est moi, ou bien que je donne tout le pouvoir à l'autre et tant pis pour moi, je disparais. Et nous pouvons nous faire beaucoup de mal en disparaissant de cette manière. Un petit moment de présence compassionnée à ces moments de mise à l'étroit où je me sens injustement traitée, où je me sens isolée, où je me sens séparée. C'est puissant. Il n'y a pas besoin de rester longtemps, mais le connecter et s'ouvrir pour deux secondes. Le pouvoir de la compassion peut faire son œuvre. Au fond, c'est ce qu'on appelle Samasati. Et puis l'autre aspect de la compassion qui peut être évoqué, c'est la puissance ou le pouvoir. La compassion donne une verticale. C'est cette dignité ou cette détermination qui fait que je ne vais pas me laisser piéger, je ne vais pas me laisser envahir. Je prends refuge dans ce qui est profond en moi pour ne pas laisser l'aveuglement prioritaire. Et c'est ça que nous faisons quand nous demandons pardon à l'autre qui me blesse. Je lui demande pardon de le laisser me blesser parce que je n'ai pas pris suffisamment le pouvoir en moi-même pour que son aveuglement ne m'atteigne pas. Ne pas baisser les bras face à la souffrance. Et cette puissance-là, elle est dans le cœur et nous pouvons bien sentir quand il y a cet ancrage qui permet à l'autre de me toucher et que je ne vais pour sûr pas répondre. Je peux vraiment recevoir, être là et l'accompagner dans sa souffrance. C'est le pouvoir de la non-violence. C'est une sorte de compassion, mais qui est farouche. Pas un idéal. Il n'y a pas d'impression que les choses devraient être autrement. Il n'y a aucune pitié, aucun jugement, mais juste cette ici et maintenant où je peux accueillir et accompagner. Et ça demande de savoir soi-même comment laisser la souffrance nous toucher et rester dans ce soin. Je reste dans le soin. Je ne jette rien. Je ne pars pas dans la tête. Je reste en contemplation, en silence. Une bonne manière de développer cette force-là, c'est vraiment de sentir dans l'assise quand elle est là et quand elle n'est pas là. Quand il y a cet ancrage de réceptivité et quand cet ancrage manque. Je vous lis ce Lienitsin. C'est toujours dans les situations les pires que le plus beau de l'homme sort. Hein. C'est frappant. D'ailleurs, j'ai une amie qui habite en Grèce et puis qui fait de l'huile d'olive avec son mari. Et puis la Grèce, il y a quelques années, a vécu une situation catastrophique. Puis au début, c'était la panique. Et puis maintenant, je l'ai revue il n'y a pas très longtemps. Et c'est très beau ce qu'elle dit, parce que dans leur situation de dénuement, il y a beaucoup plus de solidarité. Il y a beaucoup plus de fêtes toutes simples dans les villages. Ils se sont organisés, ils ont perdu tous leurs pompiers. Les pompiers ne sont plus payés, il n'y a plus de pompiers. En Grèce, quand il y a des feux de forêt et tout, ben les paysans se sont mis ensemble, ils ont créé eux-mêmes une manière de se protéger les uns les autres et de se s'entraider. Il n'y a pas besoin d'avoir tellement peur, finalement, de perdre. C'est peut-être une grande chance. On verra, hein. Ça va peut-être sûrement nous arriver.
Oui, sûrement.
Ouais. Si seulement nous étions tous plus simples, dit Solzhenitsyn, si seulement il y avait quelque part des gens mauvais qui commettaient volontairement de mauvaises actions et qu'il faudrait séparer du reste des hommes et détruire. Mais la ligne qui sépare le bien du mal traverse le cœur de chaque être humain. Et qui, parmi nous, est d'accord de détruire un morceau de son propre cœur? Il y a un autre aspect de la compassion qui aide à ouvrir la souffrance, c'est l'action. La compassion n'est pas quelque chose de passif, c'est quelque chose qui demande un engagement. Et ça fait du bien lorsque je participe, que ce soit financièrement, avec un geste, avec un acte ou des paroles, à faire qu'il y ait moins de souffrance dans le monde. Et souvent, nous ne le faisons pas parce que nous sommes dépassés. Il y a tellement. Et alors, il y a une forme de complaisance, nous baissons les bras. C'est Edmond Kaiser qui dit, quoi qu'on dise, avec son franc-parler, j'aime bien Edmond Kaiser, et quoi qu'on dise les imbéciles, un enfant sauvé de la misère, c'est bien plus qu'une goutte d'eau dans l'océan. Et nous pouvons avoir des actes d'engagement tout simple, sponsoriser un enfant, et le faire non pas avec un sens du devoir, mais vraiment comme un geste d'amour, pour que ça nous fasse du bien à nous-mêmes aussi, et à l'autre, en conscience. Que ce soit une goutte essentielle que j'offre, et non pas quelque chose que je fais en me disant « il faudrait faire beaucoup plus ». Non, ça je l'offre. C'est comme dit Mère Teresa, l'important n'est pas tellement ce que nous donnons, mais l'amour que nous mettons dans notre don. Et alors, face à cette misère du monde, à cet incroyable mystère qui fait que la conscience humaine est trop atrophiée pour que nous sachions donner, pour que nous sachions organiser les choses de manière plus harmonieuse, c'est comme ça. y a moins d'anxiété. Je fais cette part-là, je la fais, et je la fais vraiment. C'est une action qui implique ce sentiment de solidarité, et c'est une bonne réponse à ces moments où l'anxiété nous gagne. Il y a un autre aspect de la compassion qui n'est pas toujours adéquat, mais qui l'est parfois pas mal, c'est l'humour. Nous nous prenons terriblement au sérieux dans nos drames. Mais si nous regardons avec le temps qui passe, ça passe, c'est fini. Et ce qui paraissait extrêmement important et terrible, tout à coup semble OK, quoi. Qu'est-ce qui m'a pris? Et c'est vrai à tous les niveaux. Si aujourd'hui il y avait quelqu'un qui se désolait, qui pleurait pour la guerre de 100 ans, on lui dirait, bon, c'est bon, quoi. Et pourtant, les gens souffrent bien autant qu'aujourd'hui en Syrie. Quelle part de souffrance pouvons-nous prendre un peu plus légèrement? Avec quoi pouvons-nous nous moquer gentiment de tous ces drames que nous créons? Dans l'instant, la souffrance paraît extrêmement intense et c'est important de respecter, mais de voir que ça passe et que c'est fini. Et j'ai pas besoin de continuer à faire le drame, à créer le drame. Et quelquefois, nous continuons à créer le drame parce que nous avons l'impression que si nous lâchons, ça voudrait dire arrêter d'aimer. J'ai perdu quelqu'un. J'ai plus de tristesse, tout va bien. Mais quelquefois, il y a cette association. Je dois continuer à maintenir un certain problème. Autrement, c'est comme si je l'abandonne. C'est pas le cas du tout. Abandonnons. Abandonnons. Faisons confiance. Nous ne sommes pas indispensables. Ça fait du bien quand même de savoir ça, non? Ou bien ça met à l'étroit. Oh, j'aimerais tellement être indispensable. Peut-être, peut-être. J'ai été voir une pièce de théâtre d'Ariane Mnouchkine dernièrement qui s'appelle Une chambre en Inde. C'est une histoire merveilleuse parce qu'ils sont partis pour créer une pièce où ils voulaient lier l'Orient et l'Occident. Et c'était 2 semaines après les événements du Bataclan et de Charlie Hebdo. Alors ils sont arrivés à Pondichéry et puis tout leur programme, ils étaient complètement paumés. Ils pouvaient plus du tout employer ce qu'ils avaient prévu. Alors elle a demandé à tout le monde, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ils ont vraiment spontanément créé une pièce assez géniale. Ouais, vraiment génial. À un moment donné, il y a deux dames qui sont chez elles et puis elles commencent à se désoler sur l'état du monde. Et puis elles pleurent. Et puis tu te rends compte, il n'y a plus d'ours blancs. Et tu te rends compte, maintenant, il n'y a presque plus de quantité. On n'a plus que deux, trois sortes de blé. Et puis elles en rajoutent, elles en rajoutent, elles en rajoutent. Et c'est absolument merveilleux de sentir comment le surdrame enlève le drame. À un moment donné, il y a Daesh qui arrive avec des explosifs absolument partout, puis il tue tout le monde. Puis c'est tellement trop que ça enlève la vérité de la chose. Ou bien il y a aussi un sketch sur les cheikhs d'Arabie Saoudite. Bref, une pièce de théâtre où la compassion est tournée en humour. Et ça fait du bien, parce que ça n'enlève pas le réel de la dureté de la vie, mais ça nous met dans une dimension, de nouveau, où on n'a pas le nez dedans. Où je vois que ça n'est quand même qu'une création. Et puis, une des réponses à la cruauté du monde, c'est le silence. Il y a des actes et des... systèmes qui sont tellement odieux que la seule réponse, c'est le silence. Et ça a été de tous les temps. Il y a eu le Tibet où ce qu'ont fait les gardes rouges était d'une violence et d'une perversité terrible, peut-être encore pire que le Troisième Reich, où au moins c'était clair. On était juifs, on y passait, on était Romain Michel ou un peu handicapé, ou ça y était. Mais là, c'était terriblement pervers parce qu'il y avait tout ce système de délation où un père était forcé de dénoncer son fils. Où le système communiste devait être magnifié au détriment de toutes les valeurs profondes que les gens pouvaient véhiculer. L'inquisition, si on veut aller plus loin. La profondeur du silence. C'est tellement long de créer quelque chose et c'est tellement vite fait de tuer. Quand on pense à une vie, des années pour créer un corps et un esprit, et puis un coup de pistolet, et puis c'est fini. Quand on pense à la Syrie, toute la beauté de ces vieux, ces vieilles pierres. Fini. C'est ce qu'on appelle l'impermanence. L'impermanence des civilisations, de nos systèmes politiques, des hommes d'État, des sages. On perd beaucoup quand on perd quelqu'un comme Gandhi ou comme Martin Luther King ou Mandela. C'est des hommes qui portaient énormément dans cette droiture morale. Puis il y en a toujours qui reviennent. Et on perd nos proches et on va nous-mêmes disparaître. Lorsque nous venons en retraite et que nous nous mettons en silence, d'une certaine manière, c'est une grande chose. Parce que le silence a un effet puissant. C'est peut-être ce qui purifie le plus, le renoncement. Je renonce à parler, je renonce à mes plaisirs, je renonce à partir quand j'ai envie de retrouver mon doudounet, mon coucounet. Ça demande du courage. L'effet du silence n'a pas à être minimisé. C'est profondément porteur. impermanence est douloureuse quand elle est vue de cette manière-là. Et pourtant, elle est. C'est la compassion crée ce geste-là, qui est le seul qui fait vraiment du bien. Autrement, je peux essayer de lutter, mais c'est vain, je n'arriverai jamais. Nous n'avons pas le choix. C'est notre nature humaine. C'est Christiane Singer qui dit « Vaincre la mort, vaincre la maladie, grotesque et arrogant. » Dira-t-on de quelqu'un qui a repoussé son déjeuner de 2 heures qu'il a vaincu la faim? Ou de quelqu'un qui prolonge sa soirée de 2 heures qu'il a vaincu le sommeil? Le silence face à Dukkha. Je le dis encore, Krishnamurti, qui dit « Le silence, le mouvement du silence, est le seul endroit où puisse s'opérer un changement. C'est le seul état durable duquel un changement peut éclore. Ce silence par lui-même a un effet sur la société. » Peux-tu regarder ta propre souffrance avec un silence total? C'est beau l'effort d'une retraite. C'est dur et c'est merveilleux. Et c'est ça qui crée la confiance. Parce que ce que nous vivons dans une retraite, c'est vraiment la vie. Il y a ces rencontres dans l'interrelationnel qui sont toutes simples, on ne fait rien ensemble, vraiment que se côtoyer, mais qui sont puissantes. Il y a ces rencontres avec soi-même qui sont parfois merveilleuse, parfois peu glorieuse. Et il y a cette compréhension du dharma qui peu à peu s'intègre, prend sens, se transforme à notre sauce. Et la confiance émerge parce qu'il y a cette rencontre avec le réel. Nous rencontrons non pas toujours ce que nous espérons ou ce que nous redoutons. Nous ne sommes pas toujours dans une forme d'idéal, mais nous venons vraiment dans ce réel. Quelle est l'expérience juste maintenant? Comment c'est? Et qu'est-ce que j'en fais? Et ça, ça crée la confiance. Parce que je me rends compte de ce potentiel à l'intérieur, qui est un potentiel d'accueil, de respect. Donc la méditation, ça n'est pas tellement... c'est Jack Kornfield qui disait la méditation, c'est une déshypnose. Nous sommes hypnotisés par la pensée qui nous dit que tout ce dont nous manquons, tout comme on n'est pas bien, et puis après tout comme on est bien. Et nous ne sommes pas vraiment sur la terre. C'est à nous de venir sur la terre plutôt que de rester dans notre ballon. Alors on lâche du lest, la tête se calme. Et le cœur s'ouvre. Et pour que le cœur s'ouvre, il faut aller le contacter, il faut aller le titiller. Il est comment ce cœur, maintenant? C'est un retour chez soi, dans cette vraie demeure. C'est très concret. Je vous lis encore Christiane Singer qui dit « Il n'y a pas d'existence qu'il s'agirait de dépasser, un quotidien qu'il faudrait à tout prix surmonter. » C'est tout le contraire. C'est de tout son corps qu'il faut y entrer, de tout son éros. Toute démarche spirituelle est avant tout un bain de matière. Matière et prière sont un. Il y a énormément de grandeur dans juste un sourire que je peux offrir à l'autre. Dans juste un merci. Dans les monastères, ils se font ces tout petits cadeaux. C'est tellement chouchou. Ils ne mangent rien depuis midi. Alors, à 5 heures, on ouvre la porte, puis il y a un petit papier avec un morceau comme ça de fromage. C'est du vrai. C'est du bien meilleur que quand je me torture pour savoir comment je pourrais réparer la faute que j'ai faite. Nous allons retourner dans le monde. Certains sont très heureux. Ils n'attendent que ça. Mais ils verront. D'autres aimeraient tellement rester là, encore un peu plus longtemps. Mais ma foi, ils y seront aussi, dans ce monde. C'est là que nous appartenons. Une retraite est là pour nous permettre d'être juste plus adéquats dans notre vie quotidienne. Plus ouverts et plus simple, plus ancré, peut-être plus silencieux, mais aussi plus clair, en sachant mieux mettre les limites, en disant ça, non, pour moi, ça, non, je ne te fais pas du bien en donnant trop. Donc il y a en même temps la clarté qui se développe et cette ouverture du cœur. Et nous ne pouvons pas attendre des fruits, logiques. J'ai une bonne retraite, alors je pense que ça ira beaucoup mieux dans mon quotidien. Nous ne savons pas quand les fruits vont éclore. Ça peut être dans cette incarnation, ce sera peut-être dans une autre. Ouh, ça, c'est déjà plus embêtant. Hein. Mais ce que nous emmagasinons n'est pas perdu. Ce sera utile à un moment ou à un autre. Et dans notre quotidien, simplement, nous nous souvenons que la part du chemin dans le monde, c'est de faire le bien et d'éviter de faire le mal. Alors nous pouvons en plus de ça cultiver l'esprit, en donnant un temps chaque jour pour être là, en nous offrant de temps en temps des temps de silence, en trouvant peut-être une sangha, un groupe, ça aide d'avoir un groupe. Ça n'est pas indispensable du tout. Et les choses se digèrent. Il y a en fait, lorsque nous sortons de retraite, c'est le début de la retraite. Avec tous les défis du monde. Peu à peu, la compréhension grandit, la compréhension de la pensée. La pensée commence à vraiment m'aider à voir clair. Elle devient un serviteur plutôt qu'un maître. Elle Elle se met au service. Nous avons donc deux grands trésors. C'est cette clarté qui nous rend libres. Je suis libre. Je vois clair. Le monde est un mirage. Et puis, la bonté du cœur qui sait s'engager et qui sait se lier à ce monde. Et ça, ça rend heureux. C'est un bonheur libre. Et nous avons un outil précieux, c'est la présence, à cultiver encore et encore. Et quand je suis en présence, c'est que je peux sentir cette nourriture, j'aime bien employer le mot nourriture, et bien peut-être que je peux sentir combien c'est assez. Il n'y a rien besoin de plus. C'est pas grand chose, mais c'est tellement assez. Adya Shanti disait, oui, c'est du rien, mais quel rien. Le Bouddha de la compassion, Kuan Yin, est ce Bouddha qui est vraiment dans ce centre où d'un côté il y a toute cette beauté de la joie, de la tendresse, de l'empathie, de la compassion, et puis de l'autre côté toute cette clarté de la sagesse, du lâcher prise. Et je vais finir avec cette toute petite parole. Le cœur de Kuan Yin tremble de tristesse en contemplant le monde, mais parce qu'il y a la sagesse, son esprit n'est pas envahi. Nous pouvons prendre un moment en silence.